Vous écoutez France Culture.
Politique, nous recevons aujourd'hui François Hollande, président depuis 2008 du Conseil général de Corrèze et député de la première circonscription de la Corrèze, membre du Bureau national et ancien premier secrétaire, plus de 10 ans, au Parti socialiste, alors que son Conseil national, dès la semaine prochaine, et les militants après lui s'apprêtent à se prononcer sur le programme de rénovation du Parti socialiste. Nous reviendrons donc avec vous, François Hollande, sur les propositions contenues dans le rapport Montebourg qui a été examiné cette semaine, un peu corrigé d'ailleurs, et en particulier sur le non-cumul des mandats, sur le calendrier des primaires pour la désignation du futur candidat à l'élection présidentielle. Nous parlerons aussi de la contribution de votre parti à la vaste réflexion engagée en France sur les retraites et nous la comparerons peut-être à celle de l'UMP annoncée quelques jours plus tard. Bien d'autres questions d'actualité nationale et internationale. En France, par exemple, les projets de Luc Chatel pour réduire le nombre des enseignants. Vous avez des idées là-dessus. En Europe et dans le monde, la régulation économique et financière qui peine à se mettre en place ou des questions d'ordre politique. Nos partenaires ici présents et vous-même en décideront. Au cours de notre discussion, je vous les présente tout de suite. Bonjour, bienvenue à France Culture, François Hollande. Sont donc avec nous aujourd'hui dans ce studio Christophe Prochasson, qui est historien à l'École des hautes études en sciences sociales. Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes et professeur d'économie à Paris Dauphine. Et Éric Mandonné de l'Express, hebdomadaire partenaire de notre émission. C'est le rendez-vous des politiques. Dominique Rousset, bienvenue à tous. Nous sommes ensemble pour près d'une heure. François Hollande, nous avons l'habitude pour commencer cette émission de revenir sur le parcours de nos invités. C'est peut-être pas forcément indispensable pour ce qui vous concerne. Énarque pour la fameuse promotion Voltaire, conseiller à l'Élysée de François Mitterrand, votre implantation en Corrèze dès 88, je crois, vous avez
81.
Été député. 81 même, pardon. Conseiller régional et vice-président du conseil régional du Limousin, maire de Tulle. Jusqu'en 2008, ça c'est fini. Et bien entendu, au Parti Socialiste, au secrétariat national des 94, en charge des questions économiques, porte-parole de Lionel Jospin, et, comme chacun sait, son successeur à partir de 97. Autre question rituelle chez nous, pourquoi faites-vous de la politique? J'ai plutôt envie de vous demander, vous faites de la politique depuis de nombreuses années, comment vit-on la sortie d'une charge aussi importante que celle de la direction du Parti Socialiste? Et d'abord, êtes-vous parti de votre plein gré?
Oui, je suis parti parce que j'en ai décidé. Vous allez me dire, après plus de 10 ans, c'était la bonne étape et le bon moment. J'ai toujours voulu faire de la politique. J'ai toujours eu cet engagement. Je l'ai eu très tôt. Et je l'ai toujours eu pour le socialisme démocratique. Je n'ai jamais changé. Ni d'identité, ni de conviction. J'ai changé en fonction des situations que j'ai rencontrées. Je n'avais pas prévu d'être premier secrétaire du Parti Socialiste. J'étais ce qu'on appelle un transcourant. J'étais un peu un socialiste libre et pas un socialiste d'appareil. Je le suis devenu, non pas parce que je voulais être à la tête d'un appareil. J'ai beaucoup de respect pour les partis politiques. Je ne les considère pas comme des structures dépassées. C'est le lieu où s'élaborent des idées, où se choisissent des candidats, où s'échangent un certain nombre de conceptions de la République. Je suis devenu premier secrétaire parce que Lionel Jospin me l'a demandé en 1997, lui-même devenant premier ministre. Je pensais y rester quelques années. Et puis les circonstances, à la fois la durée de la cohabitation avec Jacques Chirac, et puis ensuite, la défaite de 2002 m'ont conduit à être au Parti Socialiste beaucoup plus longtemps que je ne l'avais imaginé. J'en suis sorti parce que je considérais avoir fait, de ce point de vue-là, le tour. Mais ce n'était pas pour redevenir simplement un militant.
Oui.
C'était pour m'engager d'une autre façon dans la vie publique.
Oui, et vous avez vécu une période qui n'était pas facile, il faut bien le dire, hein, des déchirements autour du traité constitutionnel pour l'Europe, la déroute présidentielle, on l'appelle ainsi, de 2002, nouvel échec en 2007, la désignation compliquée du candidat pour 2007, donc Ségolène Royal, et puis de curieuses primaires, on va revenir sur ce que deviennent les primaires aujourd'hui au Parti Socialiste. Je sais que vous avez souvent dit dans votre bilan que vous avez eu le sentiment de maintenir la famille vraiment soudée. Est-ce que tout de même vous avez souffert des coups reçus, des épreuves? Est-ce que vous considérez aujourd'hui que c'était difficile? Comment sortez-vous? Je reprends ma question.
Vous avez souligné ou rappelé des moments plus difficiles, mais j'ai connu la victoire de 1997 comme premier secrétaire. Je suis devenu le responsable des socialistes à ce moment-là.
Celle de 81 aussi.
Et j'ai connu, voilà, exactement la très grande joie de 1981. J'avais 26 ans. Et j'avais fait une grande partie...
Je parle de votre expérience de premier secrétaire.
Oui,
hein.
J'ai bien compris, mais c'est vrai, je remercie...
merci Christophe.
Christophe de Prochasson de cette interruption, parce que ça a été quand même le grand moment pour ma génération. Puis comme premier secrétaire, j'ai vécu des moments très intenses avec Lionel Jospin. Nous avons, non pas co-dirigé le pays ensemble, je n'aurais pas cette prétention, mais j'ai été associé à toutes les grandes décisions.
Vous avez bien travaillé ensemble.
Nous avons bien travaillé. Je crois que nous avons d'ailleurs bien travaillé pour le pays. Ça n'a pas eu le succès espéré en 2002, pour des raisons qu'il n'est pas forcément utile ici de rappeler. Mais ça a été une belle période de ma vie politique. Puis après, cette catastrophe de 2002 m'a conduit à maintenir une organisation qui aurait pu voler en éclats sous le choc. Et j'ai fait en sorte de préserver l'unité.
Au prix de compromissions ou d'indécisions parfois, je le répète car on vous l'a reproché.
Oui, vous le savez bien. Ouais. Non, c'est pas vrai. Le congrès qui avait suivi 2002, qui aurait pu être un congrès de changement d'orientation, c'était à Dijon. Et j'ai fait en sorte que la ligne du socialisme réformiste, du réel, puisse l'emporter. Et je n'ai pas fait de synthèse à ce moment-là. Quand je regarde ceux qui, hier, étaient mes opposants et qui se retrouvent aujourd'hui sur des lignes politiques tout à fait différentes. Mais qu'importe, il faut avoir toujours le respect de ce qui change et une mémoire qui n'est pas trop longue en politique. Et la seule fois où j'ai voulu faire une synthèse, c'est après les déchirements du oui ou du non, où moi, j'avais fait campagne pour le oui.
Bien sûr.
Et quand on regarde ce qui se passe en Europe aujourd'hui, l'affaiblissement de l'Europe, l'incapacité même de cette Europe à s'organiser politiquement pour préserver la force de sa monnaie, je ne regrette pas cet engagement, même s'il a été
Et vous considérez qu'on paye cher
controversé.
Cette épreuve, oui.
Ah, je pense que l'Europe ne s'est pas dotée des institutions qui correspondaient à la période qu'elle devait traverser.
Éric Mandonnet.
Deux questions liées à votre parcours. Pourquoi, à droite, devenir président de parti est un formidable tremplin pour se présenter à l'élection présidentielle, alors que lorsqu'on est un socialiste d'appareil, pour reprendre votre expression, lorsqu'on a été longtemps premier secrétaire, cette fonction, au moment où vous l'exerciez, paraissait plutôt comme un handicap. Vous l'avez plutôt présenté, en tout cas ensuite, en partant à la rencontre, retrouvant la liberté, comme si être premier secrétaire était plutôt embarrassant.
D'abord, François dans l'histoire Hollande. Du Parti socialiste, il n'y a qu'un seul premier secrétaire qui a pu devenir président de la République. Un seul. François Mitterrand, d'ailleurs.
Il n'y a qu'un socialiste
qui a pu devenir deux fois de suite président de la République.
De toute façon, oui.
Tous les autres prétendants, à partir de 1995, n'étaient pas en situation d'être premier secrétaire. Deuxième remarque, moi, j'ai été un premier secrétaire dans des circonstances que j'ai rappelées, circonstances de cohabitation où je n'avais pas vocation à représenter les socialistes dans l'élection présidentielle. C'était Lionel Jospin. Puis après, socialiste d'épreuve, premier secrétaire dans l'épreuve, compte tenu de ce qu'avait été le choc de 2002, les controverses, où je n'étais pas le candidat désigné. Mais c'est vrai qu'on pourrait se dire, dans toutes les démocraties européennes, le chef du parti est le candidat à l'élection présidentielle. Ou le candidat à la fonction parlementaire, puisque nous sommes plutôt dans les pays européens sur une conception parlementaire. Et ce n'est pas la ligne qu'a choisi le Parti socialiste. On peut le déplorer, mais c'est ainsi. Par exemple, nous sommes là dans la préparation de primaires Alors même que nous aurions pu faire un autre choix qui était de dire, effectivement, le chef du parti est le candidat. Et les primaires, c'est précisément parce que nous ne considérons pas que le chef du parti est mécaniquement le candidat. Nous parlerons sans doute de la rénovation du parti.
Tout à fait, oui.
Une des rénovations possibles pourrait être la suivante. Finalement, il faut prendre acte du fait présidentiel en France. Et parce que la gauche n'a pas suffisamment pris acte du fait présidentiel, qu'elle s'est retrouvée plusieurs fois dans la circonstance d'être empêchée de parvenir à l'exercice du pouvoir. Le seul qui a été franchement dans une stratégie présidentielle, c'est François Mitterrand. Il y est d'ailleurs arrivé.
Alors précisément,
donc, le fait présidentiel, ça voudrait dire que nous mettions le Parti socialiste sous une autorité claire, avec une responsabilité éminente pour celui ou celle qui en est
le
premier secrétaire, et avec une ligne politique qui correspond à celle qui est à la tête du Parti socialiste.
Donc ce n'est pas la réponse des primaires, mais on va y revenir, Christophe Jasson.
Mais avant, vous avez vous-même remarqué à l'instant, justement, qu'il n'y avait eu qu'un socialiste élu président de la République sous la Ve République. Est-ce que le problème n'est pas là? C'est-à-dire que si l'on était très pessimiste, qu'on saurait être quand on fait de la politique, bien sûr, mais si l'on était très pessimiste, ne pourrait-on pas considérer que les institutions, que la constitution de la Ve République est un obstacle d'une certaine façon indépassable pour la gauche, dans la mesure où elle est faite, cette constitution, pour des forces politiques qui ont été pensées dans un autre cadre et sûrement pas dans la logique parlementaire dans laquelle le Parti socialiste ne cesse de se placer. Autrement dit, est-ce que les socialistes n'ont-ils pas été élus à la présidence de la République par une espèce de petit miracle ou de grand miracle politique, c'est-à-dire un homme et un moment historique particulier qui ne saurait se reproduire de sitôt.
Là, François Hollande. Vraiment être très pessimiste. Et je fais confiance à l'historien pour nous montrer qu'il n'y a pas de fatalité et que ça dépend de la volonté de l'organisation des hommes et des femmes. Il y a un parti socialiste. Il doit prendre conscience qu'il est le seul parti à gauche qui permet l'alternance.
Il n'est pas tout seul. Et la gauche est beaucoup plus divisée que la droite.
Il est le seul qui permet l'alternance, mais il n'est pas tout seul. Et qu'il doit donc construire une coalition. Il doit donc avoir une double fonction. Une fonction de préparation de l'élection présidentielle à travers un candidat connu d'avance et capable d'exercer la responsabilité principale de conduire le pays. Et en même temps, il a une deuxième fonction, qui est une fonction d'organisation d'une majorité parlementaire. Et la conclusion d'un contrat de gouvernement avec des alliés, là encore, suffisamment à l'avance pour que ce contrat de gouvernement soit cohérent et respecté. Voilà ce que le Parti socialiste doit faire comme double mutation. Accepter le fait présidentiel et donc une organisation autour d'une direction cohérente et un chef ou une chef connue d'avance.
Ouais.
Et je regrette que d'ailleurs dans les primaires, je l'ai dit, nous ayons attendu aussi longtemps et que nous soyons encore vers la fin de l'année 2011, alors qu'à mon avis, pour une campagne présidentielle, il faut avoir une personnalité reconnue par les Français le plus tôt possible.
Vous avez François été assez seul là-dessus, hein, oui, on ne vous a pas suivi. Ouais.
Absolument, mais quelquefois, il faut avoir raison, même isolé plutôt que d'avoir tort. Groupé. Deuxièmement, il faut accepter...
Encore qu'à l'arrivée, on n'est pas très loin de ce que vous proposez.
On arrive toujours à convaincre. Bon. Et puis, deuxièmement, il faut accepter le fait parlementaire. Il y a un fait présidentiel, il y a un fait parlementaire. Il faut avoir une coalition. Et vous avez parfaitement raison de dire que le Parti socialiste ne sera jamais majoritaire à lui tout seul. Il doit avoir des alliés. Quels alliés? C'est toute la question qui est posée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Europe Écologie est l'allié naturel, à condition... que nous soyons clairs sur les engagements que nous prenons les uns les autres. Et il y a des questions qu'il faudra régler.
Et de l'autre
côté, la croissance économique, le progrès. Alors l'autre côté, plus loin à gauche, je constate qu'aujourd'hui, les positions sont quand même assez éloignées. Je ne parle pas ici du NPA, mais même le Front de Gauche. Je constate que pour l'instant, le Front de Gauche n'est pas dans une logique gouvernementale. Je respecte beaucoup les électeurs, les dirigeants, mais... ils sont plutôt dans une position où on est dans la radicalité, dans la surenchère. Quant au centre, le problème du centre, c'est qu'il a un chef, mais qu'il n'a pas de troupes. Or, pour une coalition parlementaire, il faut avoir des troupes. Le chef, en l'occurrence François Bayrou, on sait qu'il sera candidat à l'élection présidentielle. Peut-être appellera-t-il, on ne sait jamais, à voter pour le candidat de gauche au second tour.
De moins en moins, on a l'impression.
Peut-être de moins en moins, enfin c'est à lui de se déterminer. Mais quand bien même le ferait-il, pour constituer une majorité parlementaire, faut-il encore avoir des élus ? Donc moi, je suggère que nous ayons un accord privilégié avec Europe Écologie pour constituer cette majorité parlementaire.
Éric Mandonnet ?
Être capable, disiez-vous à l'instant, d'exercer la fonction présidentielle. Il y a cette logique de la Ve République avec tout ce pouvoir donné au chef de l'État. Dans le point de cette semaine, vous dites « Se présenter à une présidentielle, c'est une affaire de préparation psychologique, politique, intellectuelle. Il faut faire un travail sur soi, se dire « je vais peut-être devenir président ». C'est une réflexion assez particulière. Il faut se demander si on est capable d'être responsable de tout. » Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce travail, cette mutation que vous êtes en train de mener, j'imagine.
François Hollande.
Je le disais tout à l'heure à l'occasion de l'interruption heureuse de Christophe Prochasson. La France est le seul pays d'Europe à connaître une élection présidentielle qui fait du chef de l'État le chef de l'exécutif. Dans d'autres pays, dans la plupart des autres pays, celui qui est le chef du parti va devenir Premier ministre. Et n'aura pas été confronté au suffrage universel direct, comme pour l'élection présidentielle. Et donc ça suppose que celui ou celle qui va être à un moment candidat fasse cet exercice sur lui-même. Non pas simplement pour être candidat, c'est le plus simple, mais pour être le président. De se dire qu'à la suite de ce processus, il ou elle peut se retrouver au sommet de l'État et avec une somme de responsabilités qu'il partagera dans une logique parlementaire, qu'il partagera avec une équipe gouvernementale. De ce point de vue, je critique la façon de faire de Nicolas Sarkozy, qui pense qu'un homme seul ou une femme seule peut changer ou faire une mutation du pays, alors que les problèmes sont si complexes. Et s'il n'y a pas eu ce travail psychologique, c'est très difficile. Il m'a semblé que, souvent, des candidats n'avaient pas fait ce travail-là et ouais. N'avaient pas réussi à être président, en partie à cause de cela.
J'aimerais qu'on en vienne, on a mentionné bien sûr la rénovation et j'ai mentionné en titre qu'il était question à la fois du non-cumul des mandats, également des primaires que vous venez d'aborder très rapidement. Je voudrais qu'on profite de la présence de Jean-Yves Lorenzi pour parler d'économie, c'est aussi un de vos sujets favoris. Vous êtes longtemps occupé de ces questions au parti, c'est le sujet. Les retraites d'abord pour rester sur le niveau national, c'est à Jean-Yves de choisir. Jean-Yves Lorenzi.
Oui, peut-être une question préalable. Vous êtes exprimé il y a quelques semaines dans Le Monde, une interview qui était très structurée sur une position qui disait deux choses. La première, c'est que l'économie, les problèmes économiques étaient majeurs aujourd'hui, ce qui était un sentiment que je partage, mais c'est
peut pas tout être partagé.
Oui, ils le sont encore. Et deuxième sujet, au fond, avec la manière très François Hollande de dire les choses assez gentilles, mais ça consistait à dire que les amis du Parti socialiste étaient peut-être pas suffisamment conscient de la gravité de la situation dans laquelle le monde se trouve plongé. C'était il y a quelques semaines, on ne peut pas dire que ce soit vraiment arrangé depuis quelques semaines. Est-ce que vous avez le sentiment, avant qu'on parle des retraites et des politiques économiques menées en Europe et en France, est-ce que vous avez le sentiment que la gravité de la situation leur est apparue de manière plus évidente dans les derniers jours ?
François Hollande.
La situation, elle est grave et je pense que tous les citoyens, qu'ils soient socialistes ou qu'ils ne le soient pas, en sont maintenant convaincus. Ils peuvent faire porter la responsabilité de la crise à un système, à des spéculateurs, à des marchés. Mais il n'empêche que la force même des marchés est décuplée dans cette crise. C'est-à-dire que ce que l'on avait pu penser, imaginer, lorsqu'il y a eu la faillite de Lehman Brothers et cette prise de conscience que le système était devenu, disons, largement sans contrôle, pour ne pas dire fou. Vous pouvez se dire que les marchés allaient être dominés par les politiques. D'autant plus que les marchés, les acteurs financiers, ont été largement sauvés par les États. Et c'est l'inverse qui s'est produit. Je peux déplorer cette situation. Je peux espérer une régulation. Mais nous sommes dans ce moment-là, et ce moment ne va pas finir demain avec l'été. Donc, il faut que les socialistes se rendent bien compte que si ils gagnent en 2012, et il faut faire en sorte d'être à la hauteur de la situation électorale, mais il faut être aussi à la hauteur de la circonstance dans laquelle nous allons être. Il ne s'agit pas simplement de gagner, c'est déjà beaucoup. Il faut réussir. Et donc, il faut être conscient de ce dont on va hériter comme situation financière, un endettement public qui va être égal à 100% du PIB en 2013, des déficits publics qui ne vont pas vraiment se résorber. Donc, il ne faut pas non plus arriver en disant « Écoutez, nous n'avons rien à promettre. Nous sommes là simplement pour redresser les comptes publics, avec justice, avec équité. » C'est déjà beaucoup, mais ça ne suffit pas. Faut bien donner une espérance, rassembler un pays,
trouver un
mobiliser.
Élan.
Trouver
un élan.
Un élan, oui. En tout cas, trouver un chemin qui fasse que la rigueur ne soit pas simplement la fatalité de l'histoire.
Mais vous dites que les socialistes ne savent pas hiérarchiser.
Donc je dis aujourd'hui, gagner l'élection, ce n'est pas en ajoutant une promesse de plus que l'on va emporter la conviction. C'est en donnant un sens, une vision, une perspective. C'est en mettant une cohérence. C'est en mettant de l'ordre dans la hiérarchie des priorités.
Oui, mais
et moi, j'ai dit par exemple que je considérais qu'aujourd'hui, le seul sujet qui vaille comme espérance, c'est de donner aux jeunes de notre pays leur place, leur reconnaissance et leur dignité. C'est elle, la jeunesse, la génération, qui risque d'être sacrifiée. Et c'est elle qui peut permettre de rassembler toutes les autres.
Vous faites allusion là au pacte sur lequel vous avez beaucoup réfléchi, oui, sur les questions d'éducation. On va y venir, c'est tout à fait intéressant.
Mais peut-être juste, je reprends la question, parce que François Hollande, avec beaucoup de talent, a à la fois dit tout le monde doit être conscient de la gravité de la situation, donc par construction,
les
socialistes aussi et les dirigeants socialistes. Mais il y avait quand même dans ce texte, une fois de plus, avec beaucoup de gentillesse, c'était pas un réquisitoire, mais il y avait l'impression que les dirigeants socialistes n'avaient pas dans les réponses qu'ils formulaient, et on pourra évoquer tout à l'heure les problèmes de retraite ou les problèmes de croissance ou les problèmes de diminution de déficit budgétaire, la conscience qu'on était peut-être en train de vivre une période comme le monde n'en a pas connue, oui, depuis. C'était ça, ma question.
Le temps passe vite.
Je vais ajouter deux précisions. Un, il faut cesser d'avoir l'illusion que notre seule victoire va déclencher un mécanisme de confiance tel que miraculeusement, la croissance, le progrès, le développement vont nous régler tous les problèmes dont nous allons hériter de la gestion précédente. Ça, c'est une illusion que toute alternance produit. L'espérance folle que notre seule victoire déclenche la confiance des épargnants, les dépenses des consommateurs et le boom des investisseurs. Ce n'est pas vrai. Et la deuxième prise de conscience qu'il faut avoir, qui n'empêche en rien la volonté, qui au contraire doit nous mettre en force par rapport aux événements que nous allons traverser, c'est que autant en 1981, nous avons pu mener des politiques de relance et résister à la contrainte extérieure. Combien de temps ? 6 mois avant la première dévaluation, 1 an avant la deuxième, 2 ans avant la troisième, pour faire la rigueur. Mais là, c'était même plus de 6 mois qu'il s'agit. J'allais dire, c'est presque de 6 jours.
C'est tout de suite.
C'est que toute faute, toute ignorance de la réalité, compte tenu de ce que sont les marchés, nous mettrait en difficulté. Il ne s'agit pas de céder aux marchés, mais il ne s'agit pas non plus de les ignorer. Donc il s'agit de montrer que nous avons une cohérence, que nous avons un ordre,
mais par exemple,
nous avons des priorités.
Par exemple, de dire très clairement que la situation européenne est très compliquée, très difficile, que l'euro est peut-être menacé, peut-être ou sûrement, ça dépend des points de vue, et qu'il se passe ce phénomène assez étonnant que tout d'un coup, cette instauration de la monnaie unique pourrait être réversible. C'est quand même, ce sont des choses qui frappent énormément les opinions. Donc, est-ce qu'il faut vraiment faire prendre conscience à tout le monde de ces réalités ? Et jusqu'où ne risque-t-on pas d'aller trop loin lorsqu'on est candidat à avoir un discours de sincérité ? C'est très bien, ça peut être politiquement dangereux, pardon de le dire avec cynisme.
Il faut assumer le choix de l'euro, il faut le justifier. L'euro n'est pas un problème.
De même pour les impôts, d'ailleurs.
Ce n'est pas l'euro qui est un problème. Ce sont les marchés qui veulent mettre en cause cette outils de régulation. Et deuxièmement, ce sont les facilités avec
les pouvoirs qu'on leur connaît.
Oui, ce sont les facilités avec lesquelles certains pays se sont débarrassés de toute contrainte. Mm-hmm. C'est ça les deux menaces. Mais il faut faire de l'euro une force, un bouclier. Il y a aujourd'hui, dans certaines places, aussi bien à Londres qu'aux États-Unis, des acteurs financiers qui n'ont jamais admis l'euro. Qui le disent d'ailleurs. Il y a même un journal en Grande-Bretagne qui fait quasiment campagne contre l'euro.
Oui, mais voilà, on a le sentiment que d'un coup, ça devient possible de reculer.
Il faut se rendre compte que l'euro est un outil au service, pas simplement d'un projet politique, au service d'un espace économique.
Premier du monde. On rappelle, on oublie toujours que c'est...
Et on oublie toujours de le dire.
C'est la première puissance économique du monde.
Première puissance économique du monde.
Donc nous défendons avec l'euro. Nous ne défendons pas l'euro. En tant que tel, nous défendons avec l'euro. Mais il faut aussi en tirer toutes les conclusions. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un problème ? C'est que nous avons une monnaie, mais que nous n'avons pas l'autorité politique. Le pari de François Mitterrand, qui n'a pas été réussi, il faut bien en convenir, pas par lui, mais par ses successeurs. Le pari de François Mitterrand et même d'Helmut Kohl ensemble, c'est-à-dire on fait la monnaie, et la monnaie elle-même, parce que c'était comme ça que s'étaient construits les grands ensembles politiques en Allemagne notamment, c'était de penser que ça allait créer en soi une autorité politique. Et c'est parce que nous n'avons pas été capables de créer cette autorité politique, les dispositifs qui vont avec, budgétaires, financiers, fiscaux, que nous sommes dans cette situation. C'est la faiblesse politique qui est en fait aujourd'hui en cause.
Parce que François Hollande, le modèle politique n'est pas facile à trouver, puisqu'il ne peut pas être pensé sur le modèle de l'État-nation, mais il ne peut pas non plus être pensé sur le modèle fédéral américain. Donc ça fait 20 ans, 30 ans, peut-être plus encore, qu'on réfléchit autour de ça. Mais quel type de modèle politique vous envisageriez pour l'Europe ? Quelle est au fond la pensée à mettre en œuvre sur ce sujet qui, comme vous le dites, est certainement décisif si on veut faire de l'Europe autre chose qu'un marché commun ?
Moi, je distingue l'Europe des 27, qui est un espace de droit commun, de valeurs communes, avec l'Europe de l'euro. L'Europe politique, ça doit être l'Europe de l'euro. Donc, nous ne sommes pas là dans un projet à 27. Mmh. Nous sommes là dans un projet à 16. Peut-être faut-il regarder, d'ailleurs, s'il en faut d'autres ou s'il n'en faut pas moins. Mais il est clair que c'est cette Europe qui a accepté de mettre en commun sa monnaie qui doit être l'autorité politique. Et vous avez raison. Nous devons avoir un État-nation qui demeure. Parce qu'il y a un projet français qui ne se confond pas avec le projet européen, qui est un projet républicain que nous n'avons pas encore accompli. Et puis, il y a un projet européen qui se trouve être celui d'un espace commercial commun, d'une diplomatie économique commune, ne l'oublions pas, et d'une monnaie que nous avons en gestion, et d'une coopération budgétaire qui est indispensable. On parle de fédéralisme budgétaire. C'est Jean-Claude Trichet qui a eu ce mot. Il peut faire peur, au sens où nous aurions perdu notre souveraineté budgétaire. Mais il y a bien nécessité d'une coordination des politiques budgétaires. Sinon, comment faire pour avoir une cohérence dans la politique économique européenne? Et c'est cette articulation qui est très difficile à trouver démocratiquement.
Et au-delà d'une coordination d'une politique économique? Est-ce qu'on peut aller au-delà?
On peut aller au-delà. Il faudrait avoir
une Europe universitaire,
le courage d'abord, il faudrait avoir le courage de lever un impôt plus important au plan européen, courage de lever des emprunts européens, courage de faire des projets industriels européens, courage de mener une politique universitaire européenne.
Peut-être juste rajouter, une stratégie de parité. On va rentrer dans une guerre des monnaies dans les mois qui viennent. Et l'affaire de l'euro est un prémisse de ce qui va se passer en 2011. Et c'est très, très intéressant de savoir qui pourrait être l'acteur, peut-être la Banque Centrale Européenne, qui serait capable de en fait, définir une stratégie de parité de l'euro face au dollar et face aux autres monnaies.
Donc, à laquelle il faut s'attendre. Est-ce qu'on peut revenir sur le programme de rénovation du Parti Socialiste, si on le veut bien? Et j'oublie pas la question des retraites ni de l'éducation, nous avons encore pas mal de thèmes. Donc c'était une discussion qui a eu lieu autour des propositions, après avec un rapport qui avait été préparé par Arnaud Montebourg, qui a été légèrement amendé, notamment sur la question du non-cumul des mandats, qui a froissé certains élus. Donc vous l'avez un petit peu corrigé à la marge, mais dans l'ensemble, il y a eu un accord là-dessus. Au passage, je note que nous enregistrons cette émission un mercredi soir, car François Hollande n'est jamais présent à Paris, le jeudi ni le vendredi. Effet du cumul, vous partez en tant que président du Conseil général.
Le vendredi à Paris et le samedi.
Voilà.
Mais je ne serai que député.
Et donc nous ne sommes pas en direct le samedi avec vous, c'est pour cette raison.
Je ne serai que député, que je serai également présent le vendredi et le samedi dans ma circonscription.
Et s'il fallait choisir, vous resteriez...
S'il fallait choisir, j'ai toujours dit que mon mandat principal était celui de député.
Que Éric Mandonnet sur cette question.
Une,
oui.
une question sur les,
primaires
qui sont au cœur de la rénovation. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est en train de tuer les primaires, que le Parti socialiste est en train de tuer les primaires au moment où il les invente? On dit de moins
Justifiez
en moins de candidats.
Votre question.
Il y aura peut-être bientôt plus qu'un seul candidat à des primaires. Le système semble être promu en tant que bel outil de décoration, mais dégradé en tant que vrai outil de sélection.
Il y a deux choses. Il y a même trois choses. Il y a la procédure elle-même. Les primaires, c'est d'associer des électeurs socialistes à la désignation de leurs candidats. Je ne pense pas qu'il faille attendre des millions de personnes.
Déjà.
Oui, ça se faisait déjà. On peut élargir ce processus. Ça se prépare, ça s'organise, il faut que chacun s'inscrive. Bref, il faut avoir quand même un certain nombre de règles pour réussir l'opération.
Adhérer à des valeurs de gauche, notamment.
Voilà. Et puis s'inscrire pour que chacun puisse vérifier qui est électeur. C'est toujours utile pour éviter des contentieux. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il faut avoir des candidats. S'il n'y a pas de candidats, enfin s'il n'y en a qu'un, inutile d'aller convoquer plus que les militants socialistes. Ce serait un peu particulier de demander à beaucoup de Français de venir pour rien. Je veux croire qu'il y aura plusieurs candidats. Ou alors on n'a pas inventé ce système-là pour simplement faire une primaire de ratification.
Oui, c'était de...
Je veux le croire.
Troisième vous voulez le croire, parlons clairement. En ce moment, il y a toutes sortes de déclarations. C'est pour ça que je posais cette question. En gros, on a l'impression qu'il y a plus un accord entre quelques hiérarques, on ne dit plus éléphants, dont vous n'êtes pas, pour que tout soit ficelé avant même les primaires.
Oui, mais je ne peux pas empêcher les uns les autres, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, de trouver un accord entre eux pour qu'il n'y ait qu'un dans le pacte dont je ne sais plus exactement qui il concerne. Mais je ne suis pas favorable à ce qu'il y ait beaucoup de candidats. À mon avis, deux, trois, peut-être quatre suffisent bien.
Mais si on regarde, on en voit tous davantage.
La question, c'est de savoir, je reviens aux critères, est-ce qu'on peut être, non pas candidat, ça c'est le plus simple, mais président de la République, ce qu'on a à choisir quand on est socialiste, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait présidentiel, c'est le prochain président de la République. Et puis, il y a le calendrier. Moi, j'ai fait cette proposition de choisir plutôt avant l'été. Pourquoi? Parce que, par expérience, je me dis quand même, organiser toute cette procédure au mois d'octobre ou au mois de novembre 2011, lorsque Nicolas Sarkozy aura déjà fait connaître ses intentions, parce qu'il les fera connaître assez tôt, d'ailleurs. Il les a déjà fait connaître. Il a même dit, que j'ai trouvé cette formule savoureuse, qu'à partir de septembre 2011, il ne faisait que de la politique. Comme si, jusqu'à présent, il n'en avait pas fait. Mais donc, ce serait quand même cocasse qu'au moment où Nicolas Sarkozy serait lui-même en campagne, nous, on en serait encore à définir les règles et les prétendants pour les primaires. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, pas trop de candidats, mais quand même, un certain nombre, à un moment qui me paraît plutôt judicieux, c'est-à-dire avant l'été, mais si c'est tout de suite après, j'en ferai pas une maladie. Et enfin, d'avoir des règles qui soient connues de tous pour qu'on ait une participation
élevée. Vous avez à peu près été entendu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
J'ai
fait allusion parce que vous aviez demandé que le vote effectivement ait lieu avant l'été. C'est vrai qu'il a été décidé qu'il aurait lieu en octobre 2011, mais le dépôt des candidatures va avoir lieu en juillet ou en juin. Donc en gros, c'est vous qu'on écoute.
Pensez-vous vraiment que cette idée de primaire était une bonne idée finalement? Parce que on avait l'impression dans les derniers mois que le Parti socialiste se remettait un peu sur les pieds, que les divisions étaient atténuées, qu'il y avait de nouveau un air de famille, au fond, qui était rassurant pour les électeurs de gauche. Et là, on voit déjà, et votre intervention à l'instant le montre, que de nouveau, les couteaux ou les dagues commencent pas de votre côté, bien sûr, parce que, comme le disait Jean-Hervé Lorenzi, vous êtes gentil, mais les méchants, de l'autre côté, sont là, déjà, à s'organiser.
J'ai une manière gentille, parce que c'est... Il n'y a pas d'ambiguïté très gentille de dire les choses très fort.
Ne craignez-vous pas de redonner, au fond, cette image de division et de personnalisation du débat qui déplaît tant à votre électeur? l'électorat, vous le savez. Et d'autre part, est-ce que cette présidentialisation, vous dites, il faut prendre acte du fait présidentiel, ne se fait pas au détriment de ce que vous appeliez vous-même encore lorsque vous étiez premier secrétaire, la reprise en main d'une réflexion, vous parliez à l'époque d'un réformisme de gauche, est-ce que tout cela ne va pas être écarté par ces rivalités de personnes qui ont fait tant de mal à la droite et maintenant à la gauche?
D'abord, s'il y a des primaires pour choisir notre candidat ou notre candidate pour 2012, c'est parce qu'un congrès a été raté. Et on sait de quelle façon. À Reims, et c'était au début de l'année 2009, à la fin de l'année 2008. Donc on sait pourquoi. La bonne formule, je l'ai indiqué tout à l'heure, ce serait sans doute, et ça sera l'avenir d'ailleurs, que le premier dirigeant du Parti socialiste élu dans un congrès soit le candidat à l'élection présidentielle sans qu'il soit besoin d'aller chercher des primaires pour l'authentifier. Ça serait plus simple. Il serait connu d'avance. Et donc en début de législature, on saurait qui est candidat quand nous sommes dans l'opposition. Quand nous sommes au pouvoir, ce candidat est à l'Élysée. Deuxièmement, est-ce qu'il faut faire cette bataille, dès lors qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent prétendre à cette fonction, ils ne sont pas trop nombreux. Bon, mieux vaut faire tôt, c'est ce que j'ai voulu dire par ce calendrier, mieux vaut faire tôt. Parce qu'on sait bien que ça va durer et ça va souffrir. Parce que c'est toujours une épreuve. Et si on doit faire ces primaires, si elles ont lieu donc, et que ce sont de vraies primaires, il y aura toujours des séquelles. On se souvient des arguments qui avaient pu être échangés en 2006 et qui ont été utilisés par l'adversaire. C'est pour ça que j'avais souhaité qu'il y ait plutôt une anticipation.
Est-ce que la vraie rénovation ne serait pas que le Parti socialiste devienne un véritable parti de gouvernement et s'assume comme tel? Et peut-être que l'exemple des retraites pourra être développé. Lorsque vous étiez à la tête du Parti socialiste, en 2003, et que le gouvernement a réformé les retraites, je crois me souvenir que le Parti socialiste s'était engagé à abroger la loi Fillon s'il revenait au pouvoir. Il n'est pas revenu au pouvoir et maintenant, la loi Fillon, elle est quasiment acceptée. Aujourd'hui,
Elle est appliquée surtout.
Oui, mais elle est acceptée par le Parti socialiste. Elle est acceptée en creux par le Parti socialiste. On entend Martine Aubry dire que si la gauche revient en 2012, elle s'empressera de défaire la réforme des retraites actuellement débattue, en tout cas de revenir sur l'âge légal de 60 ans. Est-ce que ça ne reste pas un problème culturel important au Parti socialiste, ce décalage entre les propos que l'on tient lorsqu'on est dans l'opposition et ceux tenus au gouvernement?
François Hollande.
Le Parti socialiste, il ne doit pas être un parti qui tient un autre discours dans l'opposition que celui qu'il a tenu au gouvernement, et ensuite au gouvernement un discours différent de celui qu'il tenait dans l'opposition. Parce que c'est sa crédibilité qui est en cause. Moi j'avais dit, c'était en 2003, si nous revenons aux responsabilités en 2007, il faudra de toute façon une nouvelle fois regarder le dossier des retraites. Je dis d'ailleurs la même chose aujourd'hui. Quelles que soient les décisions que prendra le gouvernement là, dans 5 ans, il faudra de nouveau examiner les paramètres des régimes de répartition. Selon le niveau de la croissance, la productivité, selon l'ampleur du chômage, il est faux de prétendre qu'il y a un grand choix des retraites. Et j'ai plaidé pour que tous les 5 ans ou tous les 7 ans, il y ait un exercice de vérité sur les régimes de répartition. La position du Parti socialiste sur l'âge légal de la retraite me paraît bonne. C'est-à-dire l'âge légal de la retraite 60 ans, ce n'est pas l'obligation de partir. C'est la possibilité de partir. C'est une protection uniquement pour les salariés qui sont entrés tôt dans la vie active et qui ont fait leurs 41 années de travail soumis à cotisation. Voilà, la retraite aujourd'hui dite à 60 ans ne protège que ceux qui ont commencé tôt leur vie. Est-ce qu'il faudra travailler plus longtemps si l'espérance de vie s'allonge? Ma réponse est oui. Et nous devrons adapter, ajuster la durée de cotisation en fonction de l'espérance de vie. Et nous pourrons même le faire pour tenir compte de la pénibilité. Parce que ce n'est pas la même espérance de vie pour un travailleur qui est soumis à un certain nombre de contraintes, de nuisances, ou pour un cadre ou un professeur qui est moins exposé à des souffrances. Ça ne veut pas dire que les enseignants ne sont pas exposés à d'autres souffrances. Mais je pense que l'espérance de vie est le bon critère. Enfin, est-ce qu'il faut trouver des ressources fiscales ou des ressources financières? Ma réponse est oui, et tout de suite. La question de l'allongement de la durée de cotisation, ça permet de pérenniser les régimes de répartition. Mais aujourd'hui, nous avons 30 milliards d'euros de déficit des régimes de retraite, 10 milliards pour le régime général. On ne peut pas accepter un déficit des régimes de retraite aujourd'hui. Car ça signifie qu'on emprunte, car on emprunte, pour payer les retraites d'aujourd'hui, pas les retraites de demain. On ne peut pas accepter un déficit de la sécurité sociale, des régimes de retraite ou de l'assurance maladie. Car c'est faire payer aux générations futures, non pas leur protection sociale, mais la nôtre.
Et vous êtes convaincu que Nicolas Sarkozy augmentera les impôts, ne serait-ce que pour le financer ou...
Oui, mais il a déjà augmenté les impôts et il les augmentera. Et la seule question qui vaille politiquement n'est pas de savoir s'il y aura ou il n'y aura pas une augmentation d'impôts. Il y aura une augmentation d'impôts. Mais c'est de quels impôts et qui paiera?
J'arrive à Laurent.
Peut-être juste sur ce point-là, je partage, ça fait le sentiment, d'ailleurs tout le monde le partage, évidemment que les impôts sont augmentés et tout le monde le sait. La question est la suivante. La réponse du Parti Socialiste sur l'affaire des retraites est quand même essentiellement fiscale, ce qui est donc dans le curseur, on a quand même tiré beaucoup sur la fiscalité, ce qui est pas tout à fait, en tout cas, qui peut faire l'objet de discussion. Et c'est pas le jour et la nuit, mais c'est quand même le curseur est plutôt fiscalité. Et ça pose un problème parce que la fiscalité ne va pas s'arrêter là. Le problème de la fiscalité, on va le retrouver dans 15 jours, 3 semaines ou un mois sur les problèmes de déficit budgétaire. Donc on a l'impression que c'est très compliqué de traiter les problèmes fiscaux en faisant comme si en mai on rajoutait 30 milliards sur les problèmes de retraite et puis il va falloir qu'on trouve, je ne sais pas moi, quelques dizaines de milliards, peut-être 50 milliards de nouveau. Comme on va reprendre les mêmes impôts, les mêmes trucs, les mêmes ceci, c'est un peu une forme de, j'allais dire, d'abord et surtout pour les classes moyennes, notre pays, un peu une double peine. C'est-à-dire qu'on va, et au fond, est-ce que ça a un sens de traiter les problèmes fiscaux mois par mois?
François Hollande.
Pour les retraites, il faut jouer de tous les paramètres. L'erreur du gouvernement, pour ce que je sais de son projet, c'est de ne jouer que sur le paramètre de l'âge légal, voire de la durée de cotisation. Je ne souhaite pas que le Parti Socialiste souhaite regarder comme ne jouant que sur le paramètre de la fiscalité. Il faut donc jouer aussi de deux autres paramètres, la durée de cotisation, tout en maintenant l'âge légal. Et le deuxième paramètre, c'est le travail des seniors, dont tout le monde parle, mais sans solution. Moi, j'ai fait une proposition qui serait de dire que l'employeur qui ferait entrer un junior, un jeune, dans l'entreprise, et qui garderait un senior pendant au moins 5 ans, le temps qu'il puisse accéder à sa retraite à taux plein, aurait une exonération de cotisation sociale pour les deux emplois. Et qu'il y aurait un transfert de savoir-faire entre le senior et le junior. Parce que nous avons ce double problème. Il faut que les jeunes rentrent plus tôt sur le marché du travail si on ne veut pas en faire des retraités au-delà de 67 ou 68 ans, voire davantage. Et il faut que les seniors restent dans l'entreprise. Donc, ne pas traiter la question du travail, j'allais dire presque du travailler plus, mais pour avoir une meilleure retraite. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait, au-delà de 55-56 ans, des emplois qui soient laissés aux seniors.
Ce que vous rappelez sans cesse, c'est
mais oui, parce que sinon, nous sommes dans une situation où on dit on va prolonger, on va reporter l'âge légal de départ à la retraite avec 50% de salariés qui, à 60 ans, ne travaillent
plus.
Sauf que le problème n'est pas sur la tranche 55-60, mais plutôt pour la tranche après 60. Mm-hmm. C'est plutôt là que réside le problème par rapport à nos partenaires européens. J'enchaîne sur une autre question que Jean-Hervé Lorenzi suggérait d'une certaine façon concernant la fiscalité. Bon, il est clair que si la gauche gagne les élections, elle ne dira plus, comme elle l'a dit à un moment dans les années 80, qu'il faut baisser les impôts. Ça c'est clair.
Alors, je ne me souviens plus qui le disait.
Moi non plus, enfin, j'ai oublié. Excusez-moi.
C'était un peu après les années 80.
J'ai la tête un peu fatiguée. Nous arrivons en fin d'émission.
Voilà, c'est l'indulgence.
Voilà. Merci, monsieur Hollande.
Nous donc,
quel est le discours politique que la gauche peut tenir sur la fiscalité au-delà des nécessités économiques que, je crois, tout le monde entend bien. Mais quel est le discours politique que vous pouvez tenir aujourd'hui sur ce sujet?
D'abord, Jean-Hervé Lorenzi avait raison de dire on ne peut pas, sur tout sujet, dire qu'on va régler la question par une augmentation d'impôts. Parce que si on utilise la recette fiscale pour les retraites, bah, c'est autant de moins qu'on n'utilisera pas pour l'assurance maladie ou pour le budget de l'État. Donc il faut être conscient que des impôts vont augmenter, mais qu'il doit y avoir néanmoins un souci de maîtriser la masse des prélèvements. Deuxième problème que nous avons à régler. Il faudrait toujours se mettre hors de toute caricature. Entre un candidat, en l'occurrence Nicolas Sarkozy, dont on sait qu'il va nous dire, contre toute raison, je serai le président qui n'augmentera pas les impôts, puisque c'est déjà ce qu'il dit aujourd'hui, et un candidat socialiste qui dirait, vous savez, moi, je suis le candidat qui va les augmenter, je crains qu'une partie de nos compatriotes soit assez sensible au premier discours plutôt qu'au second, même si leur raison les conduit plutôt à faire le choix de la seconde option, parce qu'elle est la plus probable. Mais néanmoins, si on peut l'éviter. Donc, il faudra dire avant quels impôts, qui va payer et avec quelle durée. C'est ce qu'on appelle la stratégie des finances publiques, la stratégie fiscale. Et puis aussi, il faut avoir la volonté de faire une grande réforme fiscale. Ce qui est insupportable aujourd'hui, c'est le bricolage. Alors on va créer un nouvel impôt, on va faire une contribution exceptionnelle. Et avec le sentiment que beaucoup de contribuables peuvent avoir, c'est que c'est jamais les bons qui payent. Donc la réforme fiscale, c'est ce que j'ai plaidé, est la réforme préalable à toutes les autres réformes. C'est une fois qu'on a réglé notamment la fiscalité des particuliers, mais aussi la fiscalité des entreprises, d'une manière transparente, simple. C'est pour ça que je suis pour la fusion, impôt sur le revenu, CSG, revenu du travail, revenu du capital, avec un barème simple, progressif et un impôt minimal, que finalement, il y a la possibilité d'appeler à une solidarité et d'appeler à un effort. Quand le doute s'installe et qu'on pense que le voisin s'est exonéré, ce qui est le cas aujourd'hui avec les niches fiscales, le bouclier fiscal et tant d'autres mécanismes, qu'on a le sentiment que le voisin ne paye pas, mais que nous, on est notamment les classes moyennes, parce que qui paye, c'est pas seulement les classes moyennes, mais c'est beaucoup les classes moyennes. Même si les classes populaires, on oublie souvent, payent la CSG, qui est un impôt aujourd'hui qui rapporte plus, si je puis dire, que l'impôt sur le revenu et la TVA.
Donc, et la CRDS qui risque bien d'être augmentée.
Tous les revenus, même les prestations sociales.
À laquelle on
sociales.
Peut s'attendre qu'elle Donc, soit augmentée aussi.
Il faut avoir cette réforme fiscale. Et s'il y a une réforme à faire, d'abord, la première, et notamment dans l'état de grâce, parce que ça existe, l'état de grâce, la première réforme qu'il faut faire, c'est la réforme fiscale. Et ensuite, elle permet de régler un certain nombre de problèmes. Mais il faut aussi penser qu'on ne règle pas les problèmes d'un pays comme le nôtre simplement avec la fiscalité. Il faut produire plus, il faut produire mieux, il faut faire la mutation écologique, il faut être capable d'avoir des pôles d'excellence, il faut avoir une industrie et des services qui créent des emplois. Enfin, si on n'a pas une stratégie de mobilisation des forces productives, comme on disait, vous savez, on pourra avoir des impôts, même modernes, on n'arrivera pas à régler la question qui nous est posée, qui est celle du chômage et des déficits.
Ce qui nous amène très directement à un travail que vous avez effectué, donc c'est ce fameux pacte pour l'éducation auquel vous tenez, je le sais, mais on peut y passer un petit moment, d'autant que l'actualité nous y invite. Le ministre Luc Chatel a annoncé cette semaine qu'il envisageait de réduire le nombre d'enseignants. Ce sont des documents internes, on verra ce qu'ils deviendront. Mais évidemment, la levée de bouclier a été immédiate. Il était question d'ajouter un enfant par classe, enfin un certain nombre de mesures. Nous avons ici des universitaires et professeurs. Plusieurs choses à dire sur ce que vous proposez au sujet de ce pacte que vous proposez pour l'éducation. C'est un travail que vous avez conduit avec pas mal de consultations, de spécialistes de l'éducation et même de comparaisons internationales, donc je le mentionne au passage. Vous proposez d'abord de porter l'effort sur la maternelle et le primaire, et puis vous allez jusqu'à ce que vous avez un petit peu abordé à l'instant, évidemment l'innovation, la recherche et le soutien à l'université. Là encore, il y a un problème budgétaire qu'il faudra bien résoudre, mais vous avez quelques propositions. Choisissez peut-être vous-même avec le temps qu'il nous reste
Je pense que s'il y a un domaine qu'il faut sanctuariser au plan des ressources, ça ne veut pas dire les augmenter, mais au moins les sanctuariser, c'est l'éducation. Il faut que ce soit clair. Pourquoi ? Parce que c'est là que nous trouverons les forces qui nous permettront d'être à la hauteur dans la mondialisation et d'offrir au pays une promotion qu'il attend. Car c'est quand même à travers encore l'école que l'on pense pouvoir bâtir son destin. Je considère que les rumeurs, je ne sais pas si c'est confirmé, mais d'atteindre l'école maternelle est une faute considérable. Non pas que l'école maternelle permette le succès aux grandes écoles, mais on sait que c'est un élément de socialisation et qu'il y a aujourd'hui plutôt une diminution de la scolarisation, de la préscolarisation. Et je crois que c'est, en termes de lutte contre l'échec scolaire, tout à fait une mauvaise voie. Deuxièmement, je suis favorable, même si ça peut surprendre ceux qui nous écoutent, moi je suis favorable au tronc commun. Le tronc commun, c'est ce qui, au plan des comparaisons internationales, permet d'élever le niveau du plus grand nombre et donc de donner les bases, les éléments essentiels pour la réussite scolaire. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'individualisation. L'individualisation, elle n'est pas incompatible avec le tronc commun ou le collège unique. Enfin, je suis pour que nous fassions un effort pour l'université, parce que je ne peux pas accepter qu'il y ait une paupérisation du monde étudiant. Les grandes universités françaises, heureusement depuis quelques années, ont été évaluées au plan international, mais enfin, il y a encore beaucoup à faire. Il y a un départ maintenant de beaucoup d'étudiants et de chercheurs à l'extérieur.
Mais vous proposez
le lien avec les grandes écoles n'est pas suffisamment établi. Je crois qu'il devrait y avoir beaucoup plus de passerelles. Et donc, il faut que la démocratisation, qui était quand même un grand problème...
Mais il faut le financer, vous le proposez,
oui,
une allocation pour les...
Oui, mais on trouvera des économies ailleurs, y compris dans le système éducation nationale. Il y a des... Quand on dit... tout à l'heure, vous disiez... vous ne disiez pas ça, mais en disant il y aura un élève de plus par classe, ce n'est pas très gênant dans certaines circonstances. Dans certains lycées parisiens, vous pouvez en mettre des effectifs supplémentaires. Ils peuvent être 40 dans un certain nombre de classes, ça ne gênerait pas. Mais dans d'autres classes, là où on a besoin de lutter contre l'échec scolaire, c'est là qu'il faut avoir le taux d'encadrement le plus élevé. Donc, il y a des redéploiements possibles dans
Bien
le
entendu.
Système.
Bien entendu. Et on peut dire la même chose des universités également, où les inégalités
oui, alors,
sont importantes.
Si on voulait vous faire une objection, François Hollande, et je vais jouer le mauvais rôle, on pourrait dire que le gouvernement Sarkozy a fait un gros effort sur l'enseignement supérieur, qu'il a mis beaucoup d'argent. Madame Pécresse a fait, en effet, incontestablement, un effort sur le sujet. Que répondez-vous? Que c'est de la poudre aux yeux et quelle est aussi votre position sur
Attention.
Cette
Il nous reste peu de temps.
Il y a eu, à travers l'ouverture du capital d'EDF, quand même un paradoxe, hein, et même à travers le grand emprunt, un certain nombre de fonds qui ont été apportés aux universités. Je ne vais pas m'en plaindre.
L'autonomie.
Je préférais des moyens plus réguliers.
L'autonomie, c'est quand même. Apporter. Ça a lancé une mécanique. En réalité, ça aurait pu être. Les gouvernements, là, sont ni de gauche ni de droite. C'est une telle demande dans la paupérisation et l'affaiblissement du système universitaire français. Tous les universitaires le souhaitaient. Donc,
l'autonomie n'est pas un problème, peut même être une solution à la condition qu'il y ait une forme de péréquation des moyens et qu'il n'y ait pas des universités qui soient abandonnées parce que moins bien placées, moins bien situées.
Et vous envisageriez qu'il y ait des universités de différents niveaux, comme le cercle des économistes le préconisait dans un excellent
non,
rapport
pas le propose, le constat.
Oui, vous êtes évidence. Aujourd'hui.
Oui, mais ça ne se dit pas. Et
oui,
c'est...
mais moi je le dis, je ne sers à rien.
Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord.
Non, mais comme l'a dit Jean-Hervé, Lorenzi, ça se constate. Et que dire des grandes écoles par rapport à l'université? Donc, moi, j'ai fait un certain nombre de parcours, à la fois dans l'université et dans les grandes écoles. Je me dis que ce n'est pas possible de garder cette dichotomie. Ce n'est pas possible d'avoir des effectifs dans les grandes écoles qui soient aussi limités. On a le même nombre d'élèves dans les grandes écoles qu'il y a 20 ou 30 ans. Et j'ai cette formule parce que ça me frappe.
Il n'y a qu'en France
qu'on est marqué à vie par son passage dans les grandes écoles. Et vous lisez même les rubriques nécrologiques.
Vous, ça a l'air d'aller,
là. Faites cet exercice. Même dans les rubriques nécrologiques, on indique la grande école de celui qui a disparu. Il faut en terminer avec ça. Dans aucun autre pays, il y a cette espèce de marque de...
J'ai rappelé votre promotion, Jean-Marie.
Mais je souhaite que dans ma rubrique nécrologique, on ne l'indique pas.
Nous, je préfère avoir d'autres rubriques. J'en prends note.
Il y a cette formule merveilleuse sur l'enseignement supérieur français. Nous avons les meilleurs élèves du monde, les meilleurs professeurs du monde. Le seul problème, c'est qu'ils ne se rencontrent pas.
Je regrette d'avoir mentionné la promotion Voltaire. C'est une erreur.
Je voulais dire là par là.
Elle est si connue.
On se fait dans la vie autrement que par simplement la grande école ou l'université dans laquelle on est passé. Mais regardez la différence entre université et grande école. On n'indique jamais qu'on est un ancien de l'université d'Angers.
Mais de Dauphine, si, de Paris Dauphine, si.
De Dauphine, si.
Et pourtant, moi, j'aime beaucoup Angers.
Merci François Hollande d'être
J'ai
venu.
J'ai fait mon service militaire en plus.
Merci d'être venu nous trouver au rendez-vous des politiques. Merci à Christophe Prochasson, Jean-Hervé Lorenzi et Éric Mandonnet, bien sûr, de l'Express, hebdomadaire partenaire de notre émission, d'être avec nous aujourd'hui. Enregistrement, donc, nous l'avons précisé, car François Hollande est en Corrèze
le
samedi. Je
serai sur le marché de Tulle quand vous écouterez
le samedi
cette
matin.
Émission.
J'allais vous demander ce que vous faites de vos loisirs. Vous en avez ?
Oui, c'est un loisir.
C'est un loisir, se balader sur le marché.
Oui.
Fort bien, très bonne journée, donc très bon week-end, ainsi qu'à vous tous. Merci à Dominique Costa, assisté de Bruno Nevdanski aujourd'hui pour la réalisation. Laurence Genepin, bien sûr, préparation, documentation. Deux lectures à vous suggérer. Choc des populations, guerre ou paix, les dernières parutions du Cercle des économistes, où il est question assez largement d'ailleurs des retraites. Jean-Hervé Lorenzi et Pierre Doquet ont participé, ont animé ce travail collectif, et apparaître bientôt chez Christophe Prochasson. Il n'a pas posé la question, mais la gauche est-elle morale ? Aux éditions Flammarion, ce sera début octobre, on aura l'occasion d'y revenir. Très bonne journée à tous, à samedi prochain. L'heure du professeur Rollin, l'œil du larynx.